Le tout vieux de Charles Ferdinand Ramu. Les hommes fauchaient au-dessus des rochers du Vanil, dans une espèce de combe qu'il y a entre deux parois. Vers midi, ils s'arrêtèrent un moment, et ils s'assirent à l'ombre pour manger. Ensuite, ils retournèrent le foin étendu de la veille qui séchait. Vers le soir, il fut sec. Alors ils le nouèrent dans les grands filards, et les portant au bord du rocher, ils les précipitèrent, l'un après l'autre, dans le vide. Ils roulaient un moment, puis, d'un bond, s'élançaient dans le grand trou et tombaient d'une seule haleine jusqu'au pâturage où est le chalet. La nuit n'était pas encore venue que les hommes redescendirent. Ils étaient trois, deux jeunes et un ancien. Vêtus tous trois d'un pantalon de laine brune et d'une chemise de couleur, chaussés de gros souliers à larges clous, mais l'ancien avait une drôle de figure. Ses cheveux blancs et bouclés sortaient de dessous son chapeau de feutre. Il avait le dos rond, il était tout rasé, et il parlait seul, en hochant la tête. Il n'y a pas de sentier pour descendre du Vanil, mais, de distance en distance, comme des égratignures seulement dans la roche. Il faut connaître les passages, car il est facile de s'égarer, et, si on s'égare, on risque sa vie. Même le bon chemin n'est pas facile, à cause qu'on est en certains endroits presque suspendu aux rochers qui sont souvent lisses, et parce qu'il y a des cheminées où il faut se laisser glisser sur le dos. Mais les gens de la montagne ont tellement l'habitude de ces choses qu'ils n'y font plus attention. Leurs jambes vont toutes seules, et l'ancien, aux mauvaises places, continuait à fumer tranquillement sa pipe. Les deux jeunes allaient devant lui, on ne les voyait pas, tant cette montagne est ravinée. On entendait seulement crier leurs souliers, mordant la roche. Donc, quand ils furent en bas, prenant chacun l'un des filards sur leurs épaules, ils les portèrent au fenil. C'était un bon poids, heureusement que le fenil n'était pas loin. Ils marchaient, tout voûtés, sous la grosse boule de foin où les mailles du filet se marquent en creux, et ils fléchissaient les jambes. Puis ils remontèrent prendre les autres filards. Le soleil était déjà couché lorsqu'ils arrivèrent au chalet. Le maître Vacher leur dit « Où en êtes-vous » Ils répondirent « On a fait 14 filards. Eh bien, c'est une bonne journée. »« Oh » dirent-ils, « quand on a le beau. » Comme ils avaient faim, ils bâillèrent l'un après l'autre et ils se tenaient assis sur le banc, penchés en avant et les coudes sur les genoux. Le jour n'entrait que par la porte et il faisait sombre. Puis les bergers revinrent à leur tour. On se mit à table. Il y avait de la soupe au lait et au pain que le beau Véron avait fait cuire, du sérac, du fromage et du pain dur. Mais ils avaient la mâchoire forte et ils buvaient de temps en temps une cuillerée de petit lait pour faire descendre le manger. Une fois qu'ils furent rassasiés, ils s'assirent autour du foyer. Les branches de sapin brûlaient en jetant une grande flamme qui montait et retombait. Des fois il faisait presque nuit, d'autres fois clair comme en plein jour. Ils parlaient avec lenteur, comme s'ils avaient eu des pierres dans la bouche et un poids sur la langue. Ils parlèrent du temps pour savoir s'il allait changer. Ils ne croyaient pas, l'un disant « J'ai levé le doigt dans le vent, ça souffle toujours de bise. » L'autre branlant la tête, puis reprenant « Il faudrait encore 3 jours de beau. » Il y avait des silences, avec la nuit et le vide autour d'eux, où ils étaient comme perdus et se serraient l'un contre l'autre, puis bâillaient ou bourraient leurs pipes. Seul l'ancien, lui, n'avait rien dit. On entendit un petit bruit, c'était une pierre qui roulait du toit, et le maître reprit « Il faudra veiller à la brune, rapport à sa corne cassée. » Et puis tout le monde se tut. À ce moment, l'ancien se leva et, prenant la lanterne, grimpa à l'échelle droite qui mène au fenil où on couche. On vit la clarté entre les poutres du plafond. « Qu'est-ce qu'il a » dirent-ils. « C'est sa maladie, » dit un des faucheurs. Alors ils se turent de nouveau. Et, comme ils montaient dormir eux aussi, l'ancien lisait dans sa Bible, à côté de la lanterne pendue au mur. Ils ne lui dirent rien et se couchèrent. Ils ronflèrent bientôt, mais l'ancien lisait toujours. Il tenait le livre ouvert à deux mains devant lui, ayant mis ses grosses lunettes rondes et plissait la peau du front puis il secouait la tête et parlait bas, disant « Va-t'en ». Ensuite, il recommençait à lire dans l'Apocalypse, où les temps futurs sont annoncés, avec la venue du Christ sur la terre et toutes les calamités qui seront envoyées aux hommes pour leur punition. Les paroles de la prophétie sont obscures pour qui est aveugle, mais pour qui sait voir, elles sont plus claires que la lumière du soleil. Et ceux qui savent voir sont ceux qui ont la foi. Ils savent l'heure où la bête viendra, et la ruine de Babylone, et le nom des anges, car la main de Dieu pèse déjà sur le monde, et les temps seront bientôt révolus. Mais le vieil Élie soupira et secoua de nouveau la tête, regardant autour de lui avec crainte, puis il se mit à prier et il disait « Seigneur, délivre-moi, car c'est toujours la même chose. Il me tient autour des épaules et n'a pas le respect de toi ni de ton livre. Je sais bien quelles sont mes fautes et que ce châtiment est juste, mais donne-moi ton pardon et fais que celui-là s'éloigne, parce que sa présence est un sujet de grande douleur. » Il serrait ses mains jointes qu'il élevait devant son visage, en fermant les yeux avec ferveur et parlait à mi-voix, et sa Bible était restée posée sur ses genoux. Cependant sa prière ne servit à rien, car il recommença de gémir et de s'agiter, et il répétait « Va-t'en ! » Et puis tout à coup, il tomba à la renverse sur le foin et demeura là sans faire un mouvement, comme un homme mort, jusqu'à ce que minuit fût passé. Alors il se releva, pria de nouveau et, soufflant sa lanterne, s'étendit pour dormir. Le lendemain, il fut debout en même temps que les autres. Les hommes sortirent au petit matin et montèrent au rocher. Ils fauchèrent comme la veille. Derrière eux, il y avait deux montagnes, l'une grise, l'autre verte, qui se tenaient assises et qui se regardaient. Le soleil se posa dessus comme un gros oiseau rose, et les faux avançaient par larges ronds dans l'herbe haute où les pierres se cachent. Le vieil Élie n'était pas marié. Il gagnait sa vie, durant l'été, dans les chalets de la montagne. L'hiver, à la vallée, il traçait des paniers ou fendait les tavillons dont on couvre les toits. Il vivait de peu, il était pieux. Et, au commencement de l'hiver, un soir qu'il faisait froid, comme il se mettait au lit, il avait senti que quelqu'un entrait, mais il n'avait rien vu, ni rien entendu. Il avait seulement senti, car il y a beaucoup d'esprits à la montagne, qui habitent les grottes et les endroits où on ne peut pas aller, et dans les forêts. Ils descendent parfois vers les hommes, se plaisant à les tourmenter, si bien qu'Élie comprit qu'il était visité. Comme il comprit encore mieux quand deux mains tout à coup se posèrent sur lui et deux jambes vinrent autour de ses jambes, tellement qu'il ne pouvait plus remuer même le bout des doigts, comme s'il était enchaîné. Il ne voyait toujours personne dans la chambre. Mais c'était l'esprit qui le tourmentait. Il resta longtemps ainsi sans bouger. Alors, à la fin, l'esprit le lâcha. Et il chercha dans sa mémoire d'où pouvait bien lui venir ce malheur et quelle faute il avait commise, parce qu'il pensait que rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu et qu'il avait offensé Dieu qui le punissait par ce moyen. Mais il ne trouva rien parce que ses fautes étaient légères. Il relut les commandements tels qu'ils sont écrits dans le livre de la parole de Dieu et il vit encore qu'il ne les avait point transgressés. Alors il éprouva une grande angoisse. Mais la nuit suivante, il fut saisi de nouveau, et toutes les nuits ensuite, c'est pourquoi, dès que le soir tombait, il devenait inquiet. Il aurait voulu dépouiller sa chair, désirant la mort. Puis, comme cette pensée était coupable, il se disait « C'est à cause d'elle que je suis puni ». Il sentait venir et se nouer autour de lui ses deux bras lourds. Cependant, ce jour-là, après qu'il eut fauché pendant une heure ou deux, Élie devint faible et son corps molli. Pourtant, il était robuste et vaillant, et, d'habitude, il pouvait travailler longtemps sans se fatiguer, malgré son grand âge, car les vieux sont souvent plus forts que les jeunes. Aussi continuait-il de faucher, mais la tête lui tournait, une sueur froide comme de la neige fondue lui coulait dans le dos, et enfin il fut obligé de s'asseoir, posant sa faux à côté de lui. Et les autres, le voyant assis au lieu de faucher, lui crièrent « Qu'est-ce que vous avez ?» Il dit « Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes malade ?» Il répondit « Non, je n'ai pas mal. » Alors ils vinrent vers lui et le trouvèrent tout tremblant de froid, quoiqu'il fît un grand soleil et une chaleur vive, comme il fait dans la montagne sur les versants tournés au midi. Il tremblait, il claquait les dents, et il essayait de parler, mais il se mordait la langue. Les hommes lui firent boire une gorgée de gentiane à une petite bouteille qu'ils avaient. Et puis, dirent-ils, à présent, il vous faut descendre. Élie essaya de se lever, il retomba, et ils le soutinrent, mais sitôt qu'on le lâchait, il était comme un arbre sans racines qui ne peut plus se tenir debout. Et les hommes se dirent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'arrivera jamais en bas comme il est là? Jamais de la vie. Le mieux est d'aller les prévenir, au chalet. Le plus jeune descendit, midi vint, puis 4 heures. Alors on vit monter un des bergers qui demanda, est-ce que ça va mieux, à présent? Non, dit l'autre, ça ne va pas mieux. Et on ne sait pas d'où ça vient? Rien du tout. Élie tremblait toujours, il buvait beaucoup, mais l'eau coulait sur son menton et sur sa poitrine, car ses dents restaient serrées. Il soupirait. On l'entendait aussi qui disait « Je l'ai assis sur la poitrine ». Et il reprenait « Tire-le de là, tire-le de là ». On aurait pu croire qu'il était devenu fou. Ensuite, à l'heure où le soleil baissait, on apporta des couvertures pour la nuit. Les hommes couvrirent Élie. Puis ils bâtirent autour de lui une espèce de mur avec des pierres sèches. Enfin, ils allumèrent un feu. Mais la chaleur ne réchauffait pas Élie, parce que le froid qu'il avait venait du dedans, comme si tout son corps était vidé de sang. En sorte qu'à mesure que la nuit s'avançait davantage, il tremblait toujours davantage. Et les gens du chalet regardaient le feu de loin et disaient « C'est là qu'ils l'ont mis ». Et le feu du chalet était pareil à une étoile rouge, mais de près on voyait le vieux pauvre homme à côté sous ses couvertures qui semblaient soulevées par le vent, tellement il était agité. Son nez et sa bouche étaient comme deux lignes droites en travers l'une de l'autre, à cause que la peau de son visage s'était tendue. Il criait par moments. Alors le berger dit « Qu'est-ce qu'il avait déjà hier soir ?»« Ah !» répondit un des faucheurs, « tu ne sais pas. » « C'est son tout vieux. » Et il expliqua, disant, « C'est quelque chose qu'il a depuis l'année passée, qui lui est venu une fois, qui lui prend dans les bras et dans les jambes. Et il dit, « C'est le tout vieux, parce qu'il y croit. » Et, se tournant vers Élie, ils virent qu'il les regardait avec de grands yeux sortant des paupières, et les hommes furent effrayés. La nuit, qui était tout à fait venue, pendait autour d'eux par grands lambeaux noirs, et ils étaient trois, les deux faucheurs et le berger. Le berger dit, « C'est-il un homme, son tout vieux ?»« Oh !» dit le faucheur, « c'est un homme, c'est pas un homme. En tout cas, à ce qu'il raconte, ça ne se voit pas. Et puis, il y a des choses qui ne se voient pas. » Il reprit, « Et puis, s'il a ça, c'est peut-être en dedans, c'est peut-être en dehors, on ne sait pas trop. » Comme il parlait, Élie cria de nouveau et, depuis ce moment, il ne cessa plus de crier. Il disait, « le cou, c'est au cou, à présent. » Et en effet, il paraissait étouffé, ouvrant la bouche, comme si l'air n'entrait plus. Il gémissait, et ses gémissements étaient comme le cri de la chouette. Après quoi, il sortit la langue, elle était noire, elle pendait, et tout son corps ondulait, de la tête aux pieds, comme une vague. Une fois il resta en l'air, il n'y avait que les talons et la nuque qui touchassent encore terre, car son dos s'était cintré tant il souffrait. Ses lèvres étaient couvertes d'écume. Enfin, ses yeux commencèrent à tourner, et on n'en vit plus que le blanc, et il râla. Alors les trois hommes qui étaient là, tout raidis par la peur, se sauvèrent en même temps, droit devant eux, par la montagne, et on entendait les cailloux qu'ils faisaient rouler, rebondir et claquer contre les roches. Toutefois, avant le jour, ils arrivèrent au chalet l'un après l'autre, faisant des grands gestes et montrant le vanille du doigt, et ceux du chalet allèrent voir ce que le vieil Élie était devenu. Ils montèrent tous ensemble pour se donner du courage. Ils trouvèrent Élie mort à la place où on l'avait couché. Le feu était éteint depuis longtemps. Il n'en restait qu'un peu de cendre grise, et le corps était déjà froid. Le vieil Élie était terrible à voir, avec sa bouche grande ouverte et sa figure creusée de gros trous à l'endroit des yeux, sous les pommettes et aux narines. Il avait les deux poings noués sur sa poitrine et les jambes pliées. Quand on approcha, des mouches s'envolèrent. Alors on vit qu'il avait dans le cou des marques bleues, comme si on y avait planté les ongles, et leur nombre était celui des doigts. Et on trouva encore près de là sa Bible. Elle était déchirée, et les feuillets s'éparpillaient au vent. Ici se termine le « Tout vieux » de Charles Ferdinand Ramus, enregistré par Christiane Johanne.